Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Il est mardi matin et nous sommes dans La vie est un roman. Et ce matin, ça va être absolument passionnant. Nous allons commencer d'abord pour parler d'une exposition qui a lieu à l'abbaye de Malbuisson, dans laquelle il y a 6 jeunes femmes, ou peut-être même un peu plus, mais enfin, où il y a 6 œuvres, si je me souviens bien. Et ensuite, nous parlerons de Roland Barthes à propos de 2 publications sur lui, une publication collective et un que sais-je. Et on va commencer par là, mais alors j'ai reçu d'un plasticien qui s'appelle Mathieu Husser, qui travaille sur la signalétique des villes en tant qu'identité, sur ce qui est utilisé comme signe pour rendre l'identité d'une ville, qui fait un beau travail et qui ensuite reproduit ces signes dans des dimensions plus ou moins monumentales, et qui a un nouveau catalogue qu'il va signer le vendredi 29 novembre, donc cette semaine, à 19h30, à la librairie Volume, qui est au 47 rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e. Donc c'est un travail. Là, je tourne les pages et je vois, par exemple, une tour de type médiéval avec un Hackstatt, comment ça s'appelle, comme un de ces signes qu'on utilise sur un clavier informatique, qui est reproduit en relief et qui symbolise de façon abstraite l'esprit de la ville. Voilà, c'est Mathieu Husser à la librairie Volume, vendredi à 19h30. Ensuite, donc, nous avons une exposition de jeunes femmes, enfin de dames, à l'abbaye de Maubuisson. Cette exposition est organisée par Julien Taïb, si je prononce bien.
Julien Taïb.
Taïb. Et elle s'appelle Proliturgia, ordinatrice du temps présent. Elle commence par dans la linéarité de l'endroit. Quand on visite l'exposition, elle commence par une œuvre de technologie très avancée. Et elle finit dans les latrines du couvent avec des fougères et de la mousse, une allusion carbonifère. Et c'était donc un couvent qui était habité par des bonnes sœurs. Et c'était les latrines des bonnes sœurs. Donc on parle de le point le plus avancé de la technologie, et la technologie détournée dans une activité ludique, la robotique détournée dans une activité ludique, et on finit dans les latrines avec une allusion au paléolithique et au début de l'arrivée de la vie humaine sur la Terre. À vous, Julien, de nous raconter cette exposition.
Alors, mais comment dire après une qualité de présentation comme celle-ci ? Proliturgie ordinatrice du temps présent, c'est ça, l'abbaye du Maubuisson. L'abbaye de Maubuisson, une abbaye du XIIIe siècle fondée par Blanche de Castille, qui n'est que, rappelons-le, à 35 ou 40 minutes de Gare du Nord, pour gérer tous ceux qui peuvent être parfois frileux en ce novembre pluvieux pour, je dirais, franchir le périphérique. Voilà, donc cette abbaye n'est plus, au moment où nous parlons, que environ, ça doit être 20% de ce que c'était encore sous la Révolution française en termes de superficie, de construction. Il reste l'ensemble des bâtiments originaux, en fait, du XIIIe siècle, qui ont été rénovés dans les années 80. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette abbaye, c'est que ce sont autant les amoureux du patrimoine que un public peut-être plus pointu lié à l'art contemporain qui vient la visiter. Et donc c'est cet écran dans lequel on m'a proposé, en tant que commissaire d'exposition, de faire une exposition. Cette exposition, je l'ai voulu, notamment, j'ai voulu mettre en valeur, en fait, le travail de 8 artistes femmes et d'un homme. Femmes, alors pourquoi, effectivement, il y a une certaine mode quant au fait de faire valoir un genre, alors que dans le milieu culturel, ce qui compte, c'est l'excellence artistique, bien sûr, et pas nécessairement le genre. Mais c'est un paramètre parmi d'autres. Voilà. Et donc effectivement, on a tout un parcours cohérent, et vous l'avez assez bien résumé. Ça commence par une œuvre assez complexe, sophistiquée, qui est une œuvre robotique de Laura Hay. Et qui est en fait un canard, un robot qui est capable de faire des canards en sucre. Voilà. Donc, c'est-à-dire en gros des canards dans le café. Donc, c'est peut-être l'un des gestes les plus inutiles qu'on fait au quotidien, et le fait d'être tout simplement remplacé dans ce geste absolument nécessaire car inutile. Le robot le fait à notre place. C'est un petit peu cette à la fois cette crainte et ce fantasme du grand remplacement qui est en œuvre, la singularité, le transhumanisme. On commence par là, mais on commence un petit peu avant quelque part, parce qu'ordinatrice du temps présent, c'est aussi ordinatrice, vous l'avez bien compris, c'est le féminin d'ordinateur. C'était théoriquement et d'un point de vue technique le premier mot qu'on souhaitait attribuer à l'ordinateur, parce qu'en gros c'était l'équivalent de matrice. On appelait ça les ordinatrices et là, je dirais la langue de Richelieu, si je peux dire, a pris le pas et le masculin a fini par primer sur le féminin. Voilà. Donc, ordinatrice du temps présent, c'est bien sûr aussi un clin d'œil à Pierre Henry et sa messe du temps présent. Donc il y a toujours ce lien au contemporain. Et ce que j'apprécie moi dans l'ensemble de ce parcours, c'est de faire ce lien quelque part entre passé, présent et peut-être rester quelque part positif et en même temps, c'est ça un petit peu dans l'expectative vis-à-vis du futur. Donc d'abord, Laura est ce robot. Ensuite, on arrive sur deux pièces de Cécile Babiole et Jean-Marie Boyer qui sont un petit peu une ode à l'électricité, une sorte de petite nef d'église fait de câbles électriques et où l'électricité se produit un son et grâce à cela, en fait, l'artiste crée une composition, c'est-à-dire qu'en gros, elle va utiliser la modulation du son de l'électricité pour pouvoir recréer réellement une composition musicale. Voilà, ça c'est une des pièces qu'elle propose. Il y en a une autre également, Copy That, qui est une sorte de messagerie instantanée par onde radio. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que, alors évidemment, des Snapchat, des Messenger et de toutes ces messageries instantanées, on a une messagerie qui fonctionne à 20 mètres de distance entre les deux émetteurs-récepteurs. Et donc, on envoie nos messages. Et en fonction du nombre de spectateurs qui va y avoir au milieu, je dirais qu'il va y avoir des interférences qui vont se faire. Et les messages ne vont pas forcément arriver aussi intègres qu'ils sont partis. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on... Voilà, c'est... ça fait partie un petit peu du geste artistique, donc ce principe de messagerie artisanale, si on peut dire. Il y a également une très belle œuvre que je suis assez fier de présenter, comme toutes d'ailleurs, qui s'appelle Murs invisibles du collectif Iakeri. Donc il s'agit de Alice Gerlot, Kouroklis, Jimena Arroyo, Le Tellier et Anémone Wilhelm, qui sont trois personnes qui se sont associées pour créer tout un parcours visuel et sonore sur la question du plafond de verre. En gros, on se retrouve avec trois... c'est une sorte de triptyque, en fait. C'est une pièce de 24 minutes qui est donc à la fois vidéo et très sonore, qui est très physique et qui, en fait, nous afflige, on pourrait dire, des données sur les inégalités hommes-femmes. Dans le milieu de la culture, déjà, parce qu'elles sont... Elles ne sont pas moins fortes qu'ailleurs. Il y a également une vision, on pourrait dire, plus globale, mondiale, des inégalités hommes-femmes dans le monde professionnel, mais pas seulement. Et il y a également 8 minutes qui sont consacrées aux violences faites aux femmes. Et donc voilà, donc on passe à travers des sculptures visuelles, véritablement. Donc on a l'impression un peu de sculptures holographiques à travers lesquelles ces données sont projetées, elles sont lues, et ça a quelque chose à la fois de beau, de fascinant, mais voilà, ça trace un petit peu cet équilibre un peu ténu entre quelque chose qui flatte nos natures contemplatives, mais qui, dans le même temps, nous afflige, par sa lourdeur. On a vraiment toutes ces données qui nous rappellent à quel point on a tout à faire. Sur le fait de placer sur un pied d'égalité, je parle quand je dis nous, en qualité de mâle né XY, la moitié de la population mondiale, véritablement, et à quel point c'est un effort de fond à faire. Voilà, on a également une pièce de de Marie-Julie Bourgeois, qui s'appelle Silence, qui se place dans la salle des religieuses, voilà, qui est un petit peu la salle de travail de ces abbesses, qui ne sont pas des bonnes sœurs, hein, je tiens à le préciser, par rapport à ce qu'on se disait au tout début, on était vraiment sur la caste supérieure, quelque part, ecclésiastique. Et donc, dans cette salle des religieuses, Silence, l'idée, c'est de faire un lien avec la règle de Saint-Benoît, qui régissait, je dirais, comme du papier à musique, la vie des ecclésiastiques, et dont, on va dire, la règle la plus évidente était, je dirais, un silence absolu, sauf dans une seule pièce, d'une abbaye, celle où on a voix au chapitre, littéralement d'ailleurs, donc voilà, qui n'est pas cette pièce, donc la salle de religieuse, salle de travail, et donc là, on se retrouve avec l'équivalent d'un soleil artificiel. On se pose la question, et si le soleil, qui est quelque part régit toute vie, était remplacé par un artefact, était remplacé par un élément purement artificiel. Voilà, c'est la question qu'on pose ici, et donc on projette à travers ces fenêtres quasi millénaires une lumière artificielle, voilà, qui est celle, en l'occurrence, de vidéoprojecteur. Et donc, on a une course d'un soleil fictif. Voilà. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une fiction solaire. On a, juste après cette grande pièce qui se laisse vivre, une toute petite œuvre de Félicie d'Étienne d'Orve qui s'appelle Deep Field. Deep Field, c'est quoi? C'est une bougie et un photogramme, on va dire, une diapositive. Voilà, une diapositive de quoi? D'une prise de vue de Hubble, ce satellite qui est un petit peu notre œil du ciel profond. Et qui nous permet, depuis relativement peu de temps, hein, c'est-à-dire de voir les profondeurs de notre ciel, peut-être même parfois de remettre en question beaucoup de théories qu'on a consolidées, qu'on prend comme règle, je dirais, comme pour acquise de la science. Donc en fait, à travers cette petite diapositive, on peut voir 3000 galaxies, simplement, à la lueur ténue d'une bougie. C'est un petit peu la particularité, c'est-à-dire qu'à la fois il y a ce mythe prométhéen, c'est-à-dire la première technologie qu'on a su maîtriser au regard du règne animal, si on peut dire, c'est-à-dire vraiment le symbole même de l'avènement de l'anthropocène. Et d'un autre côté, cette technologie qui est Hubble, voilà, qui nous permet de voir, je dirais, ce ciel profond, sans pour autant qu'on comprenne parfaitement ce que ce satellite nous restitue en termes de données. C'est un petit peu aussi cet aspect équivoque entre notre relation aux technologies et la manière dont on les maîtrise que je souhaitais mettre en avant. Et la dernière pièce, en effet, vous l'avez bien précisé, cette ode au carbonifère, c'est juste simplement ce rappel de ce qu'il y avait avant nous, quelque part. Et c'est une pièce que j'apprécie énormément, de Cécile Beau. Et donc il s'agit en fait d'une forêt panchronique, donc c'est-à-dire en vrai d'une forêt qui a disparu depuis un certain temps, dont on peut retrouver un certain nombre d'essences, et donc telles qu'elles sont rassemblées, c'est une sorte de jardin d'Éden pour moi, une sorte de jardin vierge de la présence de l'homme, mais en même temps pas tout à fait, puisque on a besoin de lampes à UV et on a besoin de la main de l'homme pour pouvoir l'arroser au quotidien, et en l'occurrence de la femme. Donc pour pouvoir l'arroser au quotidien et s'assurer qu'elle perdure à minima pour les 5 mois de l'exposition, puisque l'exposition sera visible jusqu'à fin mars. Voilà. Et donc cette forêt, elle est forcément sur la totalité du parcours et en est, comme vous l'avez bien précisé, dans les latrines de l'abbaye. Elle est à la fois un lien à notre rapport physiologique, mais elle nous rappelle aussi qu'il y avait une vie avant nous, peut-être.
Et oui, donc ça, c'est un petit peu, ça m'a beaucoup plu, disons, mais rendre compte de l'image que je me fais de cette exposition. Bon, là, je dois dire que la Cécile Beau, qui a fait l'œuvre d'art, nous disait que toutes ces abbesses venaient uriner ensemble. Et dans ce moment de puritanisme...
Un horaire extrêmement précis.
Voilà, dans ce moment de puritanisme que nous vivons en ce moment, ça m'avait beaucoup plu, cette image. Mais là, elle est un peu, justement, c'est une image qui résiste au cadre général d'une image que je voudrais donner pour offrir une image à nos gens qui nous écoutent de cette exposition, d'une potentialité de cette exposition. Admettons qu'on m'engage pour animer cette exposition ou faire une performance dans cette exposition, que je devrais y faire quelque chose qui l'ouvre sur... Elle est très... très maîtrisée, elle est belle, elle est très en accord avec l'abbaye, elle diffuse une assez agréable musique comme ça, de très très bonne tenue. Et je pense qu'elle se prêterait bien à une lecture de l'exégèse de Philippe Kadic. Il y a quelque chose, il y a des mondes imaginaires qui peuvent s'ouvrir si, surtout si on est peu de visiteurs, comme ça existait les petits musées. Avant, on visitait les petits musées, il n'y avait jamais personne, c'était un pur bonheur, ils étaient un peu à l'abandon, des fois ils étaient un peu sales, il y avait des œuvres qui étaient posées par terre, tout ça, enfin, il y avait une espèce de poésie qui se dégageait. Et là, on pourrait réintroduire des perspectives imaginaires qui fonctionneraient quand même assez bien. Sauf sur la question des latrines, parce que le rapport à la sexualité de Philippe Kadic n'était pas très épanoui.
Ah, était pas simple.
Et il n'était pas très. Oui, et puis il n'était pas. C'était pas vraiment son truc, en fait. C'est plutôt un rapport de force. Mais sur tous les autres domaines, ça se prêterait très, très bien. Ouais, et l'exégèse serait parfaite.
Oui, bien sûr.
En tout cas, je vous remercie d'être venu et merci pour cette présentation tout à fait maîtrisée. Donc, je mettrai tout sur le site avec le podcast, bien sûr. Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tours, Saint-Ouen, l'Aumône, c'est très joli, dans le 9-5. Est-ce qu'on peut avoir un petit morceau de musique, mon cher Gilles Brézard, à la technique? Bon, maintenant, nous allons parler de Roland Barthes à propos de deux ouvrages qui sont parus dernièrement, enfin cette année. Le 19e siècle de Roland Barthes, sous la direction de José Luis Diaz et de Mathilde Labbé. Les 19e siècle de Roland Barthes aux impressions nouvelles et un Que sais-je sur Roland Barthes de Mathieu Messager. Et donc nous sommes avec Mathilde Labbé et Mathieu Messager. Et donc, je vais poser la première question à Mathilde. Comment était Barthes en tant que lecteur et critique vis-à-vis du 19e siècle? Quel rapport avait-il avec le 19e siècle littéraire?
Alors, l'enjeu de cet ouvrage collectif, c'était de montrer qu'il y avait bien un rapport de Barthes au 19e siècle. 19e siècle pluriel, comme vous l'avez dit. Il y a bien une attitude, et c'est une attitude contradictoire, une attitude paradoxale. D'abord parce qu'il y a une sorte de, pour le dire rapidement, un peu de retour du refoulé 19e-iste. Il y a une culture barthésienne du 19e siècle. C'est sa culture de jeune fille bourgeoise du 19e siècle, c'est comme ça qu'il se décrit. Et pourtant, il y a une résistance à cette culture-là. C'est une résistance qui est due au retour au texte classique, à la suite de Gide, qui est due aussi à son appartenance à la nouvelle critique, à ce qu'il suit chez ce à quoi il participe avec Solers et Kristeva. C'est un siècle qui est chez lui accusé de bêtises, un siècle qui serait coupable à la fois d'idéalisme et de scientisme. Il a tous les défauts, un siècle qu'il faut absolument purger. Et en même temps, il y a un retour de ce 19e siècle, ce sont des lectures d'adolescents, des lectures qui perdurent, et par ailleurs une capacité de Barthes à relire ses textes et à les réinventer. Une autre raison pour laquelle il y a une résistance, enfin on aurait pu imaginer une résistance au 19e siècle, c'est que ces lectures du 19e par Barthes, elles invalident un certain nombre de thèses, en particulier de thèses de l'époque structuraliste. On peut penser par exemple à la mort de l'auteur. Le 19e siècle revient par les auteurs, par la focale des auteurs, comme dit José Luis Diaz. La catégorie de l'auteur, c'est ce qu'écrit José Luis Diaz, impose sa grille. Il y a une resacralisation de l'auteur. Elle est peut-être aussi due à la manière dont Barthes se pense lui-même dans la préparation du roman, la manière dont il évolue vers l'écriture. Donc invalidation de la mort de l'auteur et persistance d'une lecture affective. Une très belle image de Philippe Berthier dans son article sur Stendhal. Il écrit qu'il y a contradiction et superposition d'une exigence de théorisation qui camoufle et traduit à contrario un mode d'affect. Mode d'affect toujours prêt à déborder, qui a besoin de cette ruse pour se laisser entrevoir. Et puis la troisième tension, c'est la tension entre lecture et écriture. C'est le titre de l'article d'Anne Hirschberg-Pierrot. Donc ce rapport complexe qui traverse toute l'œuvre de Barthes, en réalité, entre lecture et écriture, se retrouve aussi pour le 19e siècle. En tous les cas, ce rapport au 19e siècle pluriel, ça nous a semblé une perspective intéressante parce que ça permettait de mettre à jour un rapport aux écrivains qui n'est pas seulement un rapport d'analyse, mais aussi un rapport de prédilection, un rapport de lecteur sensible et de lecteur parfois saisi par les textes, un peu emporté par des souvenirs de lecture.
Je pense, oui, pour le dire le plus simplement possible, c'est assez passionnant le rapport au 19e siècle, parce qu'on au niveau du vécu de Barthes, sur la temporalité pendant laquelle il a vécu, on a une vision au début, globalement, d'une chose bourgeoise qui est mal, et à l'arrivée d'une chose bourgeoise qui est bonne. Et ça rejoint, on peut imaginer par exemple une tonalité École de Francfort au début, une critique assez virulente, et puis ensuite une réconciliation tout aussi violente et tout aussi passionnée. Et là, je me tourne vers Mathieu pour qui fait un très beau bilan critique. Je recommande vivement les deux livres, mais le Que sais-je est vraiment très bien parce qu'il est absolument nécessaire. C'est une lecture générationnelle. On a l'état des lieux aujourd'hui de la fortune critique de Barthes et les choses qui sont un peu caricaturales, qui n'étaient pas caricaturales quand elles sont parues, puisqu'elles étaient dominantes. C'était vraiment la pensée, ce qu'il y avait de plus branché à ce moment-là, le système de la mode, par exemple, toute cette sémiologie, tout ce discours structuraliste a effectivement perdu toute capacité oratique et même didactique et a perdu beaucoup de facultés de transmission. Et Barthes a annoncé en fait ce retour à l'hédonisme, consumérisme assez heureux. On aurait pu parler avec Julien qui était là juste avant de ce néo-ascétisme qui se dégage de l'exposition qu'il a fait, même s'il y a des œuvres ludiques et tout, et puis que ça s'est lieu dans une abbaye. Enfin, il y a des rapports de force. Mais franchement, c'est le consumérisme barthésien de la fin de sa vie qui l'emporte largement aujourd'hui.
Oui, je vous remercie de ces propos introductifs. Merci de l'invitation. Et effectivement, vous avez raison d'interroger cette réception d'une nouvelle génération. Il y avait aussi cette envie chez moi, en commençant ce livre, de m'interroger sur la manière dont le 21e siècle, parce qu'on est au 21e siècle, Barthes meurt en 1980, lisait Barthes, et encore plus profondément, comment Barthes était dans une phraséologie intellectuelle courante, comment il était cité, comment il était parfois trahi, imité, paraphrasé. Et ce qui m'intéressait, c'était que plus que des livres ou des thèses en tant que telles de Roland Barthes, ce qui demeurait aujourd'hui parmi un grand lectorat, c'est d'abord un vocabulaire, quelques concepts, quelques syntagmes, alors avec les phrases qu'on connaît toutes très bien, le degré zéro de l'écriture, l'effet de réel, la mort de l'auteur, ou alors aussi des couples théoriques qui travaillent en binarité, plaisir-jouissance, lisible, scriptible, écrivain, écrivant. Et je trouve que cette manière qu'il a eu d'essaimer dans le discours actuel fait de lui aujourd'hui un auteur de ce que Michel Foucault appelait un auteur de discursivité, c'est-à-dire un auteur qui sert à construire d'autres pensées, qui nourrit d'autres penseurs, alors parfois pour le meilleur ou pour le pire, mais dont les vocables, dont les mots sont peut-être éloignés des œuvres initiales qui les ont portées. Donc j'ai l'impression que le monde intellectuel au sens large et artistique fait du Barthes, sans s'en rendre compte, un peu à la manière de Monsieur Jourdain, à tel point que j'étais frappé en préparant le Que sais-je, en ouvrant par hasard un France Football, première phrase qui commence, alors pour être très prosaïque, c'était les rapports entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Et la première phrase était celle-ci: l'amoureux est toujours celui qui attend, nous dit Barthes. Donc pour incarner, pour illustrer justement ce va-et-vient de désir, de fantasme entre le joueur désiré et son achat potentiel. Donc voilà, Barthes a eu une sensibilité très fine à l'invention de concepts qu'il savait qu'il allait essaimer au-delà de son œuvre. Mais après, et c'est l'autre pendant de ce que sais-je, j'avais envie de partir de ce 21e siècle, mais aussi de rappeler où chacun de ces concepts avait pris place, dans quelle séquence historique, parce que il me semble que c'est très important de rappeler aussi la force de novation de Roland Barthes dans son époque, la force politique, les combats qu'il a menés pour la critique littéraire, qu'on perd un peu de vue. Et je pense qu'il faut faire aussi cet effort historique de rebaigner Barthes dans son siècle pour mesurer toute la force d'inventivité qu'il a eue à l'époque pour s'opposer à certaines théories critiques qui étaient alors en cours, notamment à l'université, à la vieille Sorbonne, à l'époque, pardon.
Ouais, je dois faire un aveu, je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc j'étais attentif, depuis que j'ai lu vos livres, au fait de... Quand Barthes était mentionné, et quand j'ai visité l'exposition de Julien, une des artistes, par exemple, a dit « comme disait Barthes ». Donc ça se dit souvent. Et moi-même, j'ai retenu une chose de Barthes qui est très, très importante dans ma vie, c'est « on écrit parce qu'on a lu ». Oui. Et ça, c'est absolument incroyable. Même moi, je suis arrivé à trouver un stéréotype dans l'œuvre de Barthes, parce que ce que je dois dire, j'étais très, très loin de cette œuvre, à part en tant que lecteur. Parce que sur le recueil qui traite de Barthes au XIXe siècle, il est en peignoir. Donc la question de l'origine sociale se marque très fort, là, par exemple, pour moi.
Alors, il est en peignoir parce qu'il est au sanatorium.
C'est aussi une photo plutôt particulière.
On est d'accord, mais son peignoir est extrêmement cosy, confortable. Oui. Enfin, ouais.
Il nous paraissait un peu 19e-iste.
Voilà. Et il y a tout son côté bourgeois. et pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Et il y a quand même ce qui m'a frappé, c'est que c'est Flaubert qui revient très très souvent dans le recueil sur le 19e siècle. Donc il y a toute une critique comme ça du 19e siècle. Pour revenir au 19e siècle, il y a une des choses qui est aussi très marquée, qui est passionnante dans le... qui est clair, enfin c'est sur le côté didactique dans ce recueil de textes, c'est qu'il y a deux 19e siècle dans la lecture de Barthes. Il y en a avant 1848 et il y en a après 1848. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Oui, bien sûr, c'est l'une des lignes de fracture. On pourrait en tracer plusieurs. Il y a une ligne de fracture autour de 1848, avant et après, qui correspond en fait à une autre de ces dyades dont on a parlé tout à l'heure, le scriptible et le lisible. Avant 1848, ce sont des œuvres scriptibles. En fait, il y en a aussi après. Hein. Et après 1848, on entre dans la modernité. Il y a plusieurs manières de placer la modernité dans la lecture que fait Barthes du 19e siècle, mais c'en est une. Et il a cette manière de rejeter dans le passé un certain nombre d'écrivains qui ne sont plus des écrivains qui l'incitent lui-même à écrire, mais qui sont des exposés, des textes écrits sur et pour une certaine société. Faut voir là-dessus l'article de Jacques-David Hebgi. Donc il y a cette fracture de 1848 qui correspond d'une certaine manière à des textes scriptibles et lisibles. Et en même temps, il y a la possibilité pour Barthes, avec cette redécouverte de Balzac par exemple, de sauver certains auteurs. C'est une expression de Jacques-David Hebgi aussi, en les réinventant. Barthes reprend Balzac après l'avoir rejeté dans le passé. Il le reprend, mais en faisant un pas de côté, une approche un peu cavalière. Pour ce qui est de Flaubert, au contraire, c'est un auteur qui est toujours un auteur scriptible, qui n'est pas rejeté dans le passé de la manière de ce qui peut arriver à Balzac. Et donc effectivement, il y a cette fracture entre des textes d'avant 48 et d'après 48. On pourrait tracer d'autres lignes de fracture dans le 19e siècle. Donc il y a les souvenirs littéraires que Barthes va vraiment prendre en charge en tant que critique et sur lesquels il va produire une analyse assumée, et d'autres souvenirs littéraires qui s'imposent dans le développement théorique. Alors, j'étais très sensible à ce que disait Mathieu tout à l'heure sur les auteurs, sur la manière dont Barthes est devenu un auteur de discursivité. On peut dire que dans sa manière de lire le 19e siècle, il y a ce phénomène-là. Il prend Stendhal, Zola ou Baudelaire, par exemple, de la même manière. Ce sont des auteurs de discursivité. Ce sont des auteurs qui infusent sa pensée. C'est le terme qu'utilise Philippe Berthier. Il y a les auteurs qui infusent partout, qui ne sont pas saisis volontairement par le critique, mais qui se trouvent à plein d'endroits de ces développements. Donc c'est le cas de Stendhal, de Baudelaire, de Zola, parfois de manière un peu plus concertée, et puis parfois de manière involontaire. Ça vient sous la plume, comme ça, dans une liste.
On pourrait dire, pour le dire simplement, qu'il y a une littérature qui va de soi, qui s'invente en marchant, dont Balzac est très représentatif, et qu'ensuite il y a une littérature du soupçon, qui travaille sur le texte lui-même, qui travaille sur le fait que ça ne va pas de soi et qui interroge les mécanismes d'écriture. Mmh. Et Flaubert en est effectivement hyper... Enfin, c'est l'art pour l'art, extrêmement représentatif pour dire les choses simplement. Mais qu'à l'intérieur de ça, ça reste des théories qui sont plaquées sur le réel et qu'on peut trouver une nouvelle bizarre de Balzac qui interroge la façon d'écrire la nouvelle. Et il ne parle pas du chef-d'œuvre absolu, mais enfin, ça serait... Et parce que lui, il a une vision sur la sexualité, donc il va le tirer sur une nouvelle qui parle de sexualité. Mais on a effectivement, sans faire aucun effort, on peut trouver des choses bizarres dans l'œuvre de Balzac. Mmh. Et d'ailleurs, c'est... J'ai travaillé sur le disque lu La femme de 30 ans de Balzac. Et ça se prête très, très, très bien à une analyse très poussée des mécanismes d'écriture. Mmh.
C'était très sensible à ce que disait Mathilde sur la manière dont Barthes critiquait une forme de 19e siècle. Je pense qu'on pourrait étendre cette façon de faire à tout son art herméneutique ou à tout son art critique à Roland Barthes. C'est quelqu'un qui a une capacité à lire et à expliquer les textes, que ce soit le 19e ou d'autres textes, des textes classiques ou des textes très contemporains, tout en excédant le texte de propositions théoriques nouvelles. Barthes pense à même le texte et à même la phrase. Et en cela, il est très généreux parce qu'il autorise aussi le lecteur que l'on est à lire différemment la littérature, à s'autoriser des intuitions, à s'autoriser l'infusion d'une forme de subjectivité dans la manière dont on s'empare des concepts, sans forcément s'emparer de toute une séquence historique, sans forcément être le spécialiste absolu. Et ça a été longuement reproché à Barthes, hein. Il n'est pas spécialiste de Michelet, il n'est pas spécialiste de Balzac, il n'est pas spécialiste de Flaubert, il n'est pas spécialiste de Robbe-Grillet, mais à chaque fois qu'on lit Barthes, il y a quelque chose qui naît. Et ça force et sa puissance de pensée. Et là, le texte est un texte à chaque fois tuteur et devient, je trouve, fondateur d'une pensée neuve et singulière. Et donc, pour le lecteur, il y a une forme d'éblouissement. C'est-à-dire qu'on pense avec Barthes, il nous accompagne à penser, il nous aide à penser depuis l'œuvre des autres. Et je trouve qu'il y a une très grande générosité de lecteur aussi de ce point de vue-là.
Alors moi, je dirais plutôt une camaraderie enfin, je suis un grand lecteur, donc, mais une camaraderie qu'un éblouissement. Oui. C'est-à-dire qu'il ne me fascine pas, il ne me fait pas peur. Et quand il dit que lire, c'est écrire, et que c'est aussi écrire, c'est lire, et ses livres sont magnifiques à lire...
Oui, mais on lit pas la critique de Barthes comme on lirait une certaine critique traditionnelle de la littérature en allant chercher des idées pour nourrir une connaissance profonde du siècle ou d'un auteur. C'est-à-dire qu'on a même pu lire Barthes sans connaître les textes dont il parlait. Et pour beaucoup de lecteurs de ma génération, prenez tous les essais critiques. Enfin, il y a des textes ou des auteurs qui sont complètement tombés de mode et qu'on ne lit pas. Mais on va quand même lire ces essais critiques parce qu'il y a forcément quelque chose d'autre. Barthes, en quelque sorte, se surimpose... À son tuteur ou au texte qu'il prend en charge dans sa
création. Je suis entièrement d'accord. Et par exemple, Fourier, Sade, on ne retrouve rien des auteurs dedans. Il est vraiment, c'est pas quelqu'un que je conseillerais de lire pour comprendre Fourier. Je n'ai jamais lisé le Bar pour comprendre Fourier. Ça n'a strictement
aucun
sens.
Il fait son œuvre clandestinement dans l'œuvre des autres.
Mais donc, camaraderie était peut-être pas le bon mot, mais hédonisme est peut-être le bon mot. Et on pourrait parler de Proust, hein. Sur cette lisière, c'est à cause de Sainte-Beuve que je pense à ça. Et il y a quelque chose de proustien chez Barthes et il y a quelque chose de notre propre lecture de Proust dans le rapport qu'on a avec Barthes. C'est-à-dire que très souvent, on ignore les sources. Si c'est les Mille et une nuits, par exemple, il y a des passages dans Proust où on va comprendre que c'est les Mille et une nuits, mais il y a des passages où on va l'ignorer parce que ça dépend à quel moment c'est écrit. C'est de plus en plus... mieux assimilé, de moins en moins visible, ou ça peut être une chose qui est dans la structure plutôt que dans le contenu. Enfin, c'est des choses de ce type-là. Et Barthes écrit comme ça et fait une œuvre globalement comme ça.
Hein, c'est son grand rapport critique. Oui. C'est absolument. Il a quelque part, alors après, avec les limites qu'on a pu aussi lui poser, c'est qu'il a nourri, il a parlé la littérature depuis d'autres disciplines. Donc déjà, il a ouverte. Hein, on l'a parlé depuis la psychanalyse, depuis les discours sur l'histoire, depuis les sciences humaines en général. Il a aussi replacé, comme vous disiez, à travers cette figure de l'hédoniste, le lecteur en position de force devant l'œuvre, en rappelant une chose assez essentielle, c'est que l'œuvre, effectivement, ne se cantonne pas à son siècle et à ses lecteurs contemporains. Sinon, pourquoi on lirait encore Homère? Pourquoi on lirait Proust et même en traduction? Mais c'est quelque part, il a repéré qu'une œuvre était ouverte et qu'elle pouvait parler des siècles après à des générations futures. Donc, qu'elle était porteuse de signes, de significations différentes dont chaque société pouvait s'emparer au gré de son histoire et de sa sensibilité. Et finalement, c'est ça la mort de l'auteur. En fait, c'est pas non plus la mort, évidemment, de l'auteur civil. C'est la mort de l'institution auteur qui est derrière la littérature avec un L majuscule, comme si l'auteur était le détenteur unique du sens du texte. Il rappelle que c'est bien le lecteur qui, en lisant, fait aussi le sens du texte. Et donc, de ce point de vue-là, il a une place capitale qu'a rappelé Barthes. Et je trouve que c'est important de souligner ça quand vous parliez effectivement de subjectivité ou de rapport hédoniste à la lecture.
Ouais, c'est quand même fascinant, sa fortune critique. Parce que si je reprends mon exemple d'Adorno avec son refus de la culture de masse, par exemple, et que Barthes arrive à valoriser la position du consommateur d'une façon formidable, parce que c'est pas un consommateur, parce que c'est un traitement d'égal à égal. Il est bien clair que pour lire Michelet, il faut déjà une structure d'accueil énorme. Il faut déjà connaître énormément de choses, parce que sinon c'est totalement incompréhensible. Y compris un texte aussi séduisant que La Sorcière. il faut vraiment être capable de contextualiser, enfin déjà avoir chaque fois une forte connaissance du contexte. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de ces auteurs, jusqu'où ces auteurs influencent son propre travail, ces auteurs du 19e siècle commencent à faire retour dans le travail de Barthes. Oui, quels auteurs et comment quoi?
Et c'est tout à fait passionnant de s'intéresser à ce compagnonnage de Barthes avec les auteurs, qui donne cette liberté aussi au lecteur de Barthes de s'aventurer lui-même dans les textes. Et c'est pour ça que ce rapport de prédilection au texte paraît si intéressant. Alors il y a plusieurs types de rapports à ces auteurs chez Barthes. Et vous parliez de Michelet, le titre de la collection dans laquelle l'ouvrage paraît est tout à fait intéressant ici. Michelet, c'est un écrivain de toujours, et c'est un écrivain de toujours pour Barthes. Il y en a d'autres, hein. Il y a Flaubert qui est aussi pour Barthes un écrivain de toujours. Un écrivain, donc Michelet, c'est un écrivain qui, comme l'écrit Paul Petitier, n'était pas son genre, mais c'est un écrivain qui reste, c'est une lecture adolescente, qui trouve sa place dans l'œuvre critique en 54. Et ensuite, Barthes sera conduit lui-même à avoir sa place dans cette même collection en 75, à la demande de Denis Roche. Donc il y a des écrivains de toujours.
Chateaubriand, par exemple, il varie beaucoup dans son rapport à Chateaubriand.
Chateaubriand, c'est un écrivain qui revient, c'est un écrivain redécouvert. Effectivement, c'est un écrivain qui n'est pas là au départ, mais qui s'impose dans la préparation du roman, qui est parmi ces redécouvertes très heureuses de Barthes à la fin de sa vie, et qui devient un intercesseur.
Et là aussi, sur un texte très particulier, qui est très difficile à lire, qui est ascétique, en fait, qui fait l'éloge de l'ascétisme. Alors que sa première vision qu'il en avait, c'était un océan d'ennui, mais sur le Chateaubriand romantique. Donc on a entre la vie de Rancée et puis le Chateaubriand romantique, il y a un océan que Barthes franchit au cours de son existence.
Oui, et puis il y a une appropriation qui est dans une forme d'identification, qui est caractéristique de la fin de la vie de Barthes, d'une dynamique d'écriture et de ce rapport à des intercesseurs. C'est un terme de Baudelaire, mais ça fonctionne très bien pour Barthes, un intercesseur au même titre que Flaubert. Et puis il y a ces écrivains sauvés, dont on a parlé tout à l'heure, Balzac par exemple, qui est récupéré par une nouvelle lecture. Donc voilà la manière dont ils infusent dans sa pensée critique. Et puis au-delà de Barthes même, les lectures qu'il en a faites restent pour nous. Paul Petitier écrit que la lecture que Barthes a faite de Michelet, en fait, en quelque sorte paralysée d'autres lectures. Elle est tellement réussie, tellement complète, qu'elle dispense de se référer à l'original. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Parfois, on ne va même pas voir le texte qu'il y a en dessous, parce que la lecture qu'en fait Barthes est déjà suffisamment passionnante, parlante, par son développement même. Je pensais aussi à la notion qu'il va chercher chez Baudelaire, la notion d'emphase. Alors elle est intéressante pour lui parce qu'elle nourrit sa pensée de la photographie, elle nourrit à mon avis toute une théorie de l'image, et en même temps elle révèle quelque chose chez Baudelaire au moment où il s'empare de cette notion d'emphase. Après il la transforme, hein. Ça vient d'une citation de Baudelaire dans ses critiques des tableaux de Delacroix. Il la simplifie, il la retravaille, mais ça met l'accent sur quelque chose que ses contemporains n'avaient pas encore vu chez Baudelaire. Ça met l'accent sur la critique d'art, ça met l'accent sur l'intérêt de Baudelaire pour le phare. C'est une nouvelle lecture de son intérêt pour le phare. Voilà, c'est une lecture très originale de l'œuvre de Baudelaire à l'époque où il l'a fait.
Ça me fait penser à certaines personnes qui ont été fécondées, qui ont été extrêmement brillantes avec le Barthes enseignant, y compris au Collège de France. Et je pense par exemple au Fourier de Bruckner, qui est un chef-d'œuvre, et quand on pense que le type est devenu, c'est absolument extraordinaire. Et je pense à un effet de Pérec aussi, donc il y a toutes les choses quoi, de Pérec, mais il y a tout un univers comme ça. Et Mathieu, dans Le Que sais-je, fait un chapitre sur le gai savoir, où il dit que Barthes, sous l'influence directe de Nietzsche, essaye de conjuguer la gaieté et le savoir. Et ça, c'est vraiment l'impression que j'ai lue en lisant vos deux livres, c'est que c'est, rien ne m'ennuyait, enfin même les choses. Il a réussi un coup. Moi, Foucault ça m'agace les références à Foucault. Deleuze et Guattari, ça revient plus, ou quand ça revient, c'est extrêmement caricatural. Derrida a disparu pour des raisons d'approche linguistique, paralinguistique et puis de vocabulaire. C'est habitable, en fait, à transmettre. Et Barthes a réussi sur ce côté de conjugaison entre la gaieté, le savoir, etc. Mmh. Pour le meilleur et pour le pire, évidemment, ça a ses limites. Parce que, voilà.
C'est vrai qu'il a presque.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu?
C'est vrai qu'il a.
Le chapitre.
Oui, alors, sur les années plutôt 70, milieu des années 70, c'est vrai qu'on sort d'un Barthes qui est devenu un Barthes caricatural et qu'on a voulu caricaturer, le Barthes de la fin des années 60, le Barthes structuraliste qui, on avait l'impression, asséchait la lecture du texte sous des grilles, sous un outillage linguistique pour lire la littérature et tous les systèmes de signification, donc je pense à système de la mode et éléments de sémiologie, et c'est vrai que dans les années 70, le discours de Roland Barthes asserte moins, il est moins dans la construction d'objets de savoir, en tout cas massifs, pour faire une œuvre de savoir. De même, les essais sont beaucoup moins discursifs, ils sont explosés, ils sont beaucoup plus fragmentaires. Et autre chose, c'est que la subjectivité prend le dessus. C'est-à-dire que Barthes se cache beaucoup moins derrière des théorèmes, derrière des « on » et cherche à se questionner, et surtout à questionner son rapport propre aux objets de savoir, aux arts, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un retour de Nietzsche, car il a trouvé chez Nietzsche, mais là encore, à travers une lecture de Gilles Deleuze, c'est-à-dire que quand Barthes dit souvent « je suis une chambre d'écho », je lis, je suis aussi une plaque sensible, donc il s'intéresse à un fragment d'un auteur théorique qui va lui plaire, et cette phrase va infuser dans sa pensée et dans son écriture. Et Nietzsche rappelle qu'au fondement de toute pensée, il y a d'abord l'affect, il y a d'abord le « moi » qui « je suis », comment je ressens les choses. Mais Barthes ne l'a pas fait de manière du tout naïve, c'est-à-dire en se contentant de dire « j'aime » ou « j'aime pas ». Il a plutôt essayé d'interroger ce rapport soit de pleine adhésion, soit de réaction, et de théoriser ses affects. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement, il n'a pas fait une œuvre d'égotisme, contrairement à ce que certains ont pu dire. C'est-à-dire qu'on a fait l'affirmation du jeu, avec justement toutes ces valeurs bourgeoises, du bon goût, de l'affirmation de soi, avec des textes littéraires appartenant à une certaine classe d'objets culturels dotés. Il a, au contraire, interrogé justement sa répulsion, sa haine, son amour, et théoriser cela. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est une invention formelle et intellectuelle qui a été très porteuse, je pense. Et c'est pour ça que vous le voyez cité partout. Et qu'il n'a pas traversé de purgatoire, hein, comme certains grands penseurs de cette époque. Restez aussi, je pense...
Certains livres ont disparu.
Certains livres, ou alors, ils peuvent revenir aussi. Ça dépend à quel niveau on place le
curseur. Je suis sûr qu'il y a des livres de lui qui n'ont pas été réédités.
De Barthes ?
Ouais.
Il y a une réédition assez complète.
Oui, il y a des rééditions
assez complètes. Ah oui, non, je parle en livre de poche, dans le tout venant.
En point seuil, quand même, il y a quasiment tout. Mais bon, ça, c'est des détails
d'éditeur,
voilà, exactement. Et donc voilà, il n'a pas appartenu à une sphère disciplinaire stricte. Je pense que c'est ce qui a pu le sauver, et ce qui fait qu'il est emparé aussi par des disciplines variées. Mmh. Vous l'avez en art, vous l'avez en photographie, vous l'avez en théâtre, vous l'avez en critique littéraire, vous l'avez en critique politique.
Absolument.
Il a traversé aussi beaucoup de disciplines et beaucoup de discours théoriques.
On peut, si on arrive à y mettre un contenu, on peut prendre un exemple pratique, c'est effectivement cette réussite de l'écriture en fragments. Mmh. Et si on l'articule avec Nietzsche, Dieu sait si c'était difficile. Et la fortune critique de Nietzsche est très très brillante à partir de 1910 pratiquement. Hein. On a tous les Valéry, Gide, on a chaque génération va reprendre cette problématique. Et Barthes réussit quand même un très joli coup d'une écriture. Il n'y a qu'à penser le barbare Barthes. Mmh. Il réussit un très joli coup d'écriture fragmentaire qui est et ça marche bien. Bah, par exemple, le truc de l'emphase baudelairienne qui reprend. Après coup, quand je lis votre article, par exemple, sur le sujet, c'est assez exaspérant parce qu'on a l'impression d'un mec qui truque les choses, quoi. Il trouve un concept, puis il le met à toutes les choses, il écrit une préface sur n'importe quoi, il utilise son concept. C'est absolument, et c'est le mauvais côté des pédagogues, enfin, c'est ce qu'il y a de plus, ou de toute personne qui pose, qui a un tic. Mais, si on le ramène avec un peu de générosité, par exemple, sur cette problématique du fragment, on voit que c'est très réussi. Et y a pas de, il n'a pas un petit jeu de concept qu'il utiliserait à toutes les sauces. C'est plutôt... ça reste relativement ludique et ça reste relativement ouvert tout le temps. Et il est assez beau, par exemple, dans son voyage en Chine avec des gens dogmatiques à une des pires périodes qu'on puisse imaginer, à travers son homosexualité, il est le seul qui garde un comportement assez ouvert sur l'extérieur et assez intéressant et qui pour moi, ressemble à l'écriture fragmentaire, surtout du début de Nietzsche, sur les premiers recueils, là, quand Nietzsche s'interroge sur l'histoire, sur la philologie, sur des choses comme ça. Donc, vraiment, il garde un petit côté juvénile, quoi, qui est... Et ça, puis, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, en même temps, je dirais que Barthes est pas, il n'est pas dupe de cette récupération par fragments. Vous parliez de Baudelaire, la manière dont il le cite, il le fait parfois d'une manière qui peut sembler un petit peu ironique, conscient de soi-même. Il écrit en phase et entre parenthèses, il écrit CF Baudelaire. Ça a quelque chose d'assez...
Il se moque de lui-même.
D'assez désinvolte. Voilà, il se moque de lui-même en train de caricaturer la pensée de Baudelaire. Et il se moque de lui-même en train de faire du name dropping aussi. Il a conscience de son name dropping. Il le fait parfois d'une manière désinvolte, c'est un peu volontaire. Et c'est ce que. C'est entre autres ce que José Luis Diaz appelle le panoramisme sauvage, les fois où il prend ce point de vue depuis la tour Eiffel, qui est un peu l'élément emblématique de son rapport au XIXe siècle, et il le fait de manière lucide et amusée, au fond. Et c'est aussi ce qui fait que ces dégoûts, ces distances sont en même temps... il y a en même temps un rapport de plaisir. Il y a une méfiance vis-à-vis de son siècle qui le rapproche d'écrivains du XIXe siècle. C'est par là qu'il est anti-moderne à la manière... De la manière dont Antoine Compagnon l'a décrit. Il est très lucide, il est dans la distance, et en même temps, ce rapport de goût, de dégoût, d'amour, de désamour, il en joue, il en fait quelque chose d'assez réjouissant.
Mais si on pose un bilan, on a une vision un peu dramatique, parce qu'il y a sa mère qui meurt à la fin, il s'est fait renverser par ce camion de blanchisserie, il est dépressif quand même.
Il y a une chute dans une certaine lourde mélancolie après le décès de sa mère, dont il était très proche.
Mais votre bilan, globalement, c'est quand même quelque chose d'assez aérien, assez joyeux.
Oui, moi, mon bilan, si je devais le retenir en une phrase, c'est quelqu'un qui est devenu écrivain à travers une œuvre de pensée. Et ça, c'est radicalement nouveau, et ça ouvre aussi, on essaie de tirer Barthes, effectivement, vers son temps, vers les auteurs qu'il a pu influencer immédiatement, ou alors ses relectures du passé, mais il a aussi, et c'est beaucoup plus discret, influencé toute une génération après lui, qui a justement a voulu sortir de ce côté un peu corseté de l'écriture de la pensée en y infusant tout à fait autre chose. Et il y a des écrivains par fragments qui mêlent la pensée, la subjectivité, qui ont commencé à faire œuvre dans les années 80 après la mort de Barthes. Et tout le courant de ce qu'on a pu appeler en littérature, alors là c'est un peu pour les spécialistes, mais les fictions critiques, c'est-à-dire j'écris une œuvre de savoir, une œuvre qui part, qui fait de la théorie, mais en même temps je l'allège par un dispositif soit fragmentaire, soit subjectif, ou par des libertés que je prends, ben, tout ce mouvement-là est né après Barthes. Il a aussi ouvert un nouveau rapport à l'autobiographie. Vous parliez du Roland Barthes par Roland Barthes. Par son dispositif, il désamorce toute la pose monumentale de l'autobiographie habituelle, avec la transparence à la Rousseau ou le monument à la Montaigne. Il sait justement, il s'adressait à lui à la troisième personne, il était dans une impossibilité de vraiment proposer un portrait de lui, il est complètement déconstruit, complètement plastique. Donc il a ouvert vers l'autofictif aussi, dans les années 90-2000. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a fait une œuvre d'écriture et d'écrivain depuis l'exercice du savoir. Et ça, je trouve que c'est, ça doit nous inspirer, ça doit inspirer la lecture qu'on a.
Je suis d'accord sur sa démarche autobiographique. Il commence par un coup de force qui est absolument inouï. Il dit « Je ne me souviens pas de mon enfance ». j'ai aucun souvenir avant tel âge.
Et il dit aussi que les représentations de son corps ne le représentent pas, parce qu'il est en sorte d'extériorité. Il dit que c'est le « ça » qui est représenté dans les photographies. Donc toutes les photographies qui habituellement vous donnent un état civil, Barthes, en tant que lecteur de ses propres photos, se positionne avec une très grande extériorité, et il dit « voilà, l'image que je propose de moi n'est pas une image, parce que c'est juste une extériorité. » Et après, ce que je vais vous dire de moi, de mon œuvre à travers tous ces fragments, finalement ce n'est pas moi encore, parce que ma pensée, mes théorèmes sont pris dans une sorte de langue, et il le dit, insubjective. Donc vous voyez, la subjectivité est complètement déconstruite dès l'ouverture du livre, déconstruite dans l'image, il n'y a pas une image de moi, et la langue intellectuelle dont je vais vous parler n'est pas ma langue, parce qu'elle n'est qu'une chambre d'écho qui résonne avec mes contemporains. Et donc, voilà.
Il a quelque chose de 18e-iste, en fait, paradoxalement, mais dans son œuvre elle-même, dans sa réussite, puisqu'on vient de mentionner Rousseau, on peut aussi penser à Diderot, mais on peut penser à Rousseau, et il faut bien tenir compte du contexte historique. Donc le contexte historique était, enfin, l'avènement de la bourgeoisie, ces choses-là, c'est un contexte dans lequel on vit, qu'on peut pas inventer. Et Barthes a vécu un moment précis de la révolution, du développement des forces productives, comme on disait avant, qui a fait ce qu'il pouvait faire à l'intérieur de ça. Mais il a un côté neveu de Rameau qui est totalement évident, et il a effectivement un côté sur les confessions ou même sur les rêveries du promeneur solitaire. C'est vrai que si je viens d'y penser à l'instant, c'est comme ça, on découvre ses pensées en les disant.
C'est très barthésien.
Et donc, en les lisant par hasard, mais c'est vrai que je le verrais très bien articulé sur un 18e et que ça marcherait beaucoup mieux que le 19e.
Beaucoup mieux.
Parce qu'il est très très brutal avec ce 19e, et il commet des contresens absolument sans arrêt. Sur le 20e, il ne lui rend absolument pas justice, il s'y intéresse pas, en fait, hein, globalement, ou très peu. Donc il a ce côté essayiste du 18e siècle, d'encyclopédiste. C'est une figure. Et les confessions de Rousseau ne lui vont pas si mal que ça, dans le sens où les confessions de Rousseau inventent le genre en le faisant. Et sur cette invention... quand même, les confessions de Rousseau, c'est plus écrit... C'est de l'écriture. S'il y a quelque chose qui est l'écriture du soupçon, c'est bien les confessions de Rousseau.
Comme le 19e siècle, son 18e est très particulier.
Comment je vais y raconter que je me faisais fesser et que ça me faisait plaisir? C'est très difficile. Il faut d'abord concevoir l'écriture de la chose avant de se la formuler à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? On découvre dans la forme le contenu.
Tout à fait.
C'est passionnant, ce Barthes. Vous êtes d'accord? Écoutez, merci d'être venu. Reviens quand vous voulez pour parler de Barthes, ça a passé très vite.
Merci à vous.
Je mettrai tous les renseignements sur les livres sur la page du podcast. C'est Aligre FM.